Chapitre 3. Graphe. La sœur est notre maillon faible. Il l'aime vraiment beaucoup. Je sais. Elle peut tout remettre en question depuis le début. Il va refuser de la quitter. Qu'allons-nous faire dans ce cas? Le persuader qu'il a davantage envie de venir avec nous que de rester avec elle. Et comment comptez-vous vous y prendre? Je vais lui mentir. Et si ça ne marche pas, eh bien je lui dirai la vérité. Nous sommes autorisés à le faire en cas d'urgence. Nous ne pouvons pas tout prévoir, vous savez. Ender n'avait pas très faim au petit déjeuner. Il n'arrêtait pas de se demander comment ça allait se passer à l'école. Faire face à Stilson après la bagarre de la veille. Ce que ses amis comptaient faire. Probablement rien, mais Ender ne pouvait en être sûr. Il ne voulait pas y aller. « Tu ne manges rien, Andrew ?» lui dit sa mère. Peter pénétra dans la pièce. « Salut, Ender. Merci d'avoir laissé ton gant de toilette visqueux en plein milieu de la douche. Spéciale dédicace, » murmura Ender. « Andrew, il faut que tu manges quelque chose. » Il tendit les poignets comme pour signifier « Il va falloir m'attacher pour ça. » « Très drôle, » fit mère. « J'essaie de faire de mon mieux, mais ça n'a pas l'air d'intéresser mes petits génies. » « Ce sont tes gènes qui ont fait de nous des génies, maman, » fit Peter. « Papa ne nous en a certainement pas refilé un seul. »« J'ai entendu, » dit père sans même quitter des yeux les nouvelles projetées sur la table pendant qu'il mangeait. « Quel intérêt, sinon ?» La table émit un signal sonore. Quelqu'un se trouvait à la porte. « Qui est-ce ? » demanda mère. Père appuya sur une touche et un homme apparut sur sa vidéo. Il portait le seul uniforme militaire ayant gardé un minimum de sens désormais, celui de la FI, la flotte internationale. « Je croyais que c'était fini, » commenta père. Peter ne prononça pas un mot. Il se contenta de verser du lait sur ses céréales. « Je ne vais peut-être pas devoir aller à l'école aujourd'hui, finalement, » songea pour sa part Ender. Père composa le code d'ouverture de la porte et se leva de table. « Je m'en occupe. Continuez à manger. » Mais tout le monde semblait avoir perdu l'appétit. Quelques instants plus tard, père revint dans la pièce et fit signe à son épouse de le suivre. « Tu es dans une sacrée merde, » dit Peter. « Ils ont découvert ce que tu as fait à Stilson, et maintenant, ils vont t'envoyer pour un bon moment dans la ceinture. »«
Je n'ai que 6 ans, crétin. Je suis mineur. »«
Tu es un troisième, couillon. Tu n'as aucun droit. »
Valentine fit son apparition, ses cheveux encore ébouriffés de sommeil.
« Où sont maman et papa ? Je suis trop malade pour aller à l'école. »«
Encore un examen oral, hein ?» fit Peter.
« La ferme, toi !» répliqua Valentine.
« Tu devrais te détendre et en profiter, » dit son frère. « Ça pourrait être pire. »«
Je ne vois pas comment. »«
Ça pourrait être un examen anal ?»«
Trop drôle, » dit Valentine.
« Où sont maman et papa ?»
En discussion avec un type de la FI.
Elle se tourna instinctivement vers Ender. Après tout, ça faisait des années qu'ils s'attendaient à ce que quelqu'un vienne leur dire qu'Ender avait réussi, qu'on avait besoin de lui.
« C'est ça, regarde-le, » fit Peter. « Mais ça pourrait être pour moi, tu sais. Ils ont peut-être fini par comprendre que j'étais le meilleur du lot, en fin de compte. »
Chaque fois qu'il était vexé, Peter se mettait à agir comme un morveux. La porte s'ouvrit.
« Ender, » dit Père, « tu ferais mieux de venir. »
« Désolé, Peter, » railla Valentine.
Père les gratifia d'un regard noir. « Il n'y a pas de quoi rire, les enfants. » Ender le suivit jusqu'au petit salon. L'officier de l'AFI se leva à leur entrée, mais ne lui tendit pas la main. Mère ne cessait de tourner son alliance autour de son doigt.
« Andrew, » dit-elle, « jamais je n'aurais imaginé que tu étais du genre à te battre. »«
Le petit Stilson est à l'hôpital, » dit Père. « Tu l'as massacré. » « Avec ta chaussure, Ender, ce n'était pas précisément loyal. »
Ender secoua la tête. Il s'était attendu à la visite d'un représentant de l'école, pas à celle d'un officier de la flotte. C'était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Et pourtant, il n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait bien pu faire d'autre.
« As-tu la moindre explication à ton comportement, jeune homme ?»
lui demanda l'officier. Ender secoua la tête de plus belle. Il ne savait pas quoi dire, et craignait de se révéler plus monstrueux encore que ce que ses actes le laissaient supposer.
« J'accepterai ma punition, quelle qu'elle soit, » songea-t-il. Finissons-en.
Nous sommes prêts à prendre en compte des circonstances atténuantes, annonça l'officier. Mais je dois te dire que ça ne se présente pas bien. Rouer son corps de coups de pied alors qu'il se trouvait à terre, à croire que tu y as vraiment pris plaisir.
Pas du tout,
murmura Ender. Et pourquoi l'as-tu fait dans ce cas? Il était avec sa bande. Et donc, ça te suffit comme excuse?
Non.
Dis-moi, pourquoi tu as continué à lui donner des coups de pied? Tu avais déjà gagné.
Le faire tomber m'a assuré une première victoire, mais je voulais aussi gagner toutes les suivantes, pour qu'il me laisse tranquille.
Ender se remit à pleurer. Il ne pouvait s'en empêcher. Il avait trop peur, trop honte de ses actes. Il n'aimait pas pleurnicher, et ça lui arrivait d'ailleurs rarement. Et voilà qu'en moins d'une journée, il fondait trois fois en larmes, chaque fois plus fort que la précédente. Pleurer devant sa mère, son père et ce militaire l'emplissait de honte.
« Vous m'avez enlevé le moniteur, » dit Ender. « Il fallait bien que je me débrouille tout seul, non ?»«
Ender, tu aurais dû demander l'aide d'un adulte, » commença père. Mais l'officier se leva et traversa la pièce en direction du garçon. Il tendit la main. « Je m'appelle Graf, Ender. Colonel Hiram Graf, je suis le directeur de l'école primaire de guerre de la ceinture. Je suis venu te proposer de l'intégrer. »«
Enfin ?»
Mais le moniteur, l'ultime étape de ta mise à l'épreuve consistait à voir ce qui allait se passer après le retrait du moniteur. On ne procède pas toujours ainsi, mais dans ton cas...
Et j'ai réussi ?
Mère était incrédule.
Il a envoyé le petit Stilson à l'hôpital ?
Qu'auriez-vous fait s'il l'avait tué ? Vous lui auriez donné une médaille ?
Ce n'est pas ce qu'il a fait qui importe, Madame Wiggin. C'est pourquoi il l'a fait. Le colonel Graf lui tendit un dossier rempli de papiers. « Voici sa réquisition. Votre fils a reçu le feu vert du service de sélection de l'AFI. Bien sûr, nous avons déjà votre accord consenti par écrit au moment où la conception a été confirmée, sans quoi nous n'aurions pas autorisé sa naissance. Il nous appartenait depuis lors, s'il remplissait les conditions requises. »
Père reprit la parole d'une voix tremblante.
« Ce n'est pas très honnête de votre part ?» De nous laisser croire que vous ne vouliez pas de lui, puis de l'accepter en fin de compte.
« Et toute cette comédie avec le petit Stilson ?» dit Mère.
« Ça n'a rien d'une comédie, Madame Wiggin. Tant que nous ne connaissions pas les motivations d'Ender, nous ne pouvions savoir avec certitude qu'il n'était pas un autre. Nous devions nous assurer de la signification de son acte, du moins aux yeux d'Ender.
Vous êtes vraiment obligé de l'appeler par ce surnom stupide ?»
Mère se mit à pleurer. « Je suis désolé, Madame Wiggin, mais c'est ainsi qu'il s'appelle lui-même. »« Qu'est-ce que vous comptez faire, colonel Graf, sans qui perd ?»« Passer cette porte avec lui, séance tenante ?»«
Ça dépend, » répondit Graf.
« De quoi ?»« De la décision d'Ender. » Les larmes de mère firent place à un rire amer.
« Crain ! C'est donc volontaire, en fin de compte, comme c'est gentil de votre part. »
En ce qui vous concerne tous les deux, le choix a été fait au moment de la conception d'Ender. Mais lui n'a encore rien choisi du tout. Les appelés font de la bonne chair à canon, mais nous avons besoin de volontaires pour les officiers.
Les officiers ?
Les autres s'étaient tus au son de la voix d'Ender.
Oui, confirma Graf.
L'école de guerre a pour mission de former les futurs capitaines de vaisseaux, commandants de flottilles et amiraux de la flotte. Que tout soit bien clair, explosa leur père. Combien parmi les garçons de l'école de guerre finissent véritablement à la tête d'un vaisseau ?
Malheureusement, Monsieur Wiggin, il s'agit là d'une information classifiée, mais je peux néanmoins vous dire qu'aucun de nos garçons ayant passé la première année n'a jamais échoué à obtenir un grade d'officier, et qu'aucun n'en est sorti avec un grade inférieur à celui d'officier responsable de vaisseaux interplanétaires, même dans les forces de défense intrasystème. Ça n'a rien de déshonorant.
Combien réussissent à passer la première année ?
Sankey Ender ?
Tous ceux qu'ils veulent, répondit Graf.
Ender faillit dire « C'est ce que je veux ».
Mais il tint sa langue. Ça lui éviterait certes d'aller à l'école, mais c'était stupide. Son problème là-bas n'était qu'une affaire de quelques jours. Ça le tiendrait éloigné de Peter, et c'était bien là le plus important. Ça pouvait même être une question de vie ou de mort. Mais quitter père et mère, et par-dessus tout, quitter Valentine.
et devenir un soldat.
Ender n'aimait pas se battre. Il n'aimait pas ceux qui se comportaient comme Peter, les forts contre les faibles, et il n'aimait pas non plus son propre genre, les intelligents face aux imbéciles.
« Je crois, dit Graff, qu'Ender et moi devrions avoir une conversation privée. »«
Non, fit Père.
Je ne vais pas l'emmener sans vous laisser lui parler une dernière fois. Quoi qu'il en soit, vous ne pourriez pas m'en empêcher. »
Père jeta un long regard noir à l'officier, puis il se leva et quitta la pièce.
Mère marqua une pause pour serrer la main de son fils. Elle ferma la porte derrière elle en sortant.
« Ender, dit Graff, si tu pars avec moi, tu ne reviendras pas ici avant longtemps. Il n'y a pas de vacances à l'école de guerre, ni de visite. Un entraînement complet dure jusqu'aux 16 ans de l'élève. Dans certaines circonstances, on peut avoir une première permission à 12. Crois-moi, Ender, les gens changent en 6 ans, en 10 ans. Ta sœur Valentine sera devenue une femme quand tu la reverras, si tu viens avec moi. Vous serez des étrangers. Tu l'aimeras toujours, Ender, mais tu ne connaîtras plus rien d'elle. Tu vois, je ne prétends pas que c'est facile.
Maman et papa ?
Je te connais, Ender. Ça fait un certain temps que je regarde les disques du moniteur. Tes parents ne te manqueront pas. Pas beaucoup. Pas longtemps. Et tu ne leur manqueras pas longtemps non plus.
Les yeux d'Ender s'emplirent de larmes malgré lui. Il détourna la tête, mais se refusa à lever la main pour les essuyer.
« Il t'aime vraiment, Ender. Mais tu dois comprendre ce que ton existence leur a coûté. Ils sont nés dans un milieu religieux, tu sais. Le nom de baptême de ton père était John Paul Fissorek, catholique. Le 7e de 9 enfants. 9 enfants. C'était inconcevable. Criminel.
Je sais. La religion fait faire des choses bizarres aux gens. Tu connais les sanctions, Ender. Elles n'étaient pas aussi sévères à l'époque, mais ça ne plaisantait déjà pas. Seuls les 2 premiers enfants recevaient une éducation gratuite. Les impôts augmentaient avec chaque nouvelle naissance. À ses 16 ans, ton père a invoqué la loi sur les familles non conformes pour rompre avec la sienne. Il a changé de nom, abjuré sa religion et fait le serment de ne jamais avoir plus de 2 gosses. Il était sincère. Toute la honte, toutes les persécutions qu'il a subies dans sa jeunesse, il a juré qu'aucun de ses enfants ne les endurerait. Tu comprends ?
Il ne voulait pas de moi.
Eh bien, plus personne ne veut de 3e. Tu ne peux guère espérer d'eux qu'ils s'en réjouissent. Mais tes parents constituent un cas particulier. Ils ont tous les 2 renoncé à leur religion. Ta mère était mormone. Mais leur état d'esprit demeure ambigu sur la question.
Tu sais ce qu'ambigu signifie ? Qu'ils ont des sentiments partagés.
Ils ont honte de venir de familles non conformistes. Ils le gardent secret. Au point que ta mère refuse de reconnaître devant quiconque qu'elle est née dans l'Utah, de peur d'éveiller les soupçons. Ton père rejette son ascendance polonaise car la Pologne fait toujours partie des nations non conformes, ce qui la met sous le coup de sanctions internationales. Donc tu vois, le fait d'avoir un 3e, même pour répondre à des instructions directes du gouvernement, vient détruire tout ce qu'ils se sont efforcés de construire.
Je suis au courant.
Mais c'est plus compliqué que ça. Ton père vous a quand même donné des noms de saints légitimes. En fait, c'est lui-même qui vous a baptisés tous les 3 dès votre retour à la maison, après chacune de vos naissances. Et votre mère s'y opposait. Ça a donné lieu chaque fois à de belles disputes entre eux. Non pas parce qu'elle refusait de vous voir baptisé, mais parce qu'elle ne voulait pas que vous le soyez selon le rite catholique. Ils n'ont pas vraiment renoncé à leur religion. Quand ils te regardent, ils voient en toi un symbole de fierté. Ils sont parvenus à tourner la loi pour avoir un 3e. Mais aussi un symbole de lâcheté, parce qu'ils n'osent pas aller plus loin et pratiquer la non-conformité qu'ils considèrent toujours comme juste. Et ton existence même les livre au déshonneur public, vu qu'à chaque instant tu contraries leurs efforts pour s'intégrer à la société qui les entoure.
Comment pouvez-vous savoir tout ça ?
Ton frère et ta sœur avaient un moniteur, Ender. Tu n'imagines pas la sensibilité de ces instruments. Nous étions directement connectés à ton cerveau. Nous entendions tout ce que tu entendais,
que tu écoutes ou pas, que tu comprennes ou pas, nous, nous comprenions.
Et donc, mes parents m'aiment ou pas?
Ils t'aiment.
La question est plutôt de savoir s'ils souhaitent ou non ta présence ici. Le fait que tu habites dans cette maison est une source de perturbation permanente, de tension. Est-ce que tu comprends?
Ce n'est pas moi la cause des tensions.
Rien de ce que tu fais, Ender. C'est ton existence même qui est en cause. Ton frère te déteste parce que tu es la preuve vivante de son propre échec. Tes parents t'en veulent à cause de tout un passé auquel ils s'efforcent d'échapper.
Valentine m'aime
de tout son cœur. Elle t'est complètement dévouée, sans la moindre restriction, et toi tu l'adores.
Je t'ai dit que ce ne serait pas facile.
À quoi ça ressemble là-bas?
On travaille dur. Des études, tout comme à ton école ici, sauf qu'on y met beaucoup plus l'accent sur les mathématiques et l'informatique. Histoire militaire, stratégie et tactique. Et surtout, la salle de combat.
C'est quoi?
Des jeux de simulation militaire. Tous les garçons sont organisés en armée. Chaque jour se déroulent des fausses batailles en apesanteur. Personne n'est blessé. C'est juste une question de gagnant et de perdant. Tout le monde commence comme simple soldat, aux ordres. Les plus âgés deviennent vos officiers, qui ont pour tâche de vous entraîner et de vous commander au combat. C'est déjà plus que je ne puis t'en dire. C'est comme jouer aux Doriforts et aux astronautes. Sauf que vous avez des armes qui fonctionnent, des camarades qui luttent à vos côtés, et que votre avenir, tout comme celui de la race humaine, dépend de votre aptitude à apprendre à vous battre. Une existence difficile qui te privera d'une enfance normale. Bien sûr, avec ton intelligence, sans même parler de ton statut de troisième, tu n'aurais quoi qu'il en soit pas une enfance normale.
Tous des garçons?
Quelques filles. Elles réussissent rarement les tests d'entrée. Il y a trop de siècles d'évolution qui jouent contre elles. Aucune d'entre elles ne ressemblera à Valentine, de toute façon. Mais tu y trouveras des frères, Ender.
Comme Peter?
Peter n'a pas été admis, Ender, pour les raisons précises qui te poussent à le haïr.
Je ne le déteste pas, c'est seulement que
tu as peur de lui. Eh bien, Peter n'est pas totalement mauvais, tu sais. C'était notre meilleur candidat depuis bien longtemps. Nous avons demandé à tes parents de concevoir une fille ensuite. C'est ce qu'ils auraient choisi, de toute façon, dans l'espoir d'obtenir un Peter plus pondéré. Elle s'est révélée d'être trop, ce qui nous a poussés à réclamer ta naissance.
Pour avoir un mélange de Peter et de Valentine?
Si tout se déroulait comme prévu.
Et c'est le cas?
Pour autant que nous puissions en juger. Nos tests sont très bons, Ender. Mais ils ne nous disent pas tout. Au fond, ils ne nous apprennent pas grand-chose. Mais c'est toujours mieux que rien.
Graf se pencha en avant pour prendre la main d'Ender dans la sienne.
Ender Wiggin, s'il était simplement question pour toi de choisir le meilleur avenir possible, le plus heureux, je te dirais de rester chez toi. De rester ici, de grandir et de vivre dans le bonheur. Il y a des choses pires que d'être un troisième, que d'avoir un grand frère incapable de choisir s'il doit être un humain ou un chacal. Et l'école de guerre en fait partie. Mais nous avons besoin de toi. Tu vois peut-être les Doriforts comme un jeu à présent, Ender. Mais ils ont bien failli nous anéantir la dernière fois. Ils nous ont pris par surprise. Ils nous surpassaient en nombre, comme en armement. Nous n'avons dû notre salut qu'au fait d'avoir de notre côté le commandant militaire le plus brillant que nous ayons jamais trouvé. Appelle ça le destin, appelle ça une intervention divine, appelle ça la chance. Nous avions Mazer Rakam. Mais nous ne l'avons plus désormais. Nous avons rassemblé tout ce que l'espèce humaine pouvait produire. Une flotte qui ferait passer celle qu'ils ont envoyée contre nous la dernière fois pour une bande de gamins jouant dans une piscine. Sans compter quelques armes nouvelles. Mais ça risque de ne pas suffire. Parce qu'ils ont eu autant de temps que nous pour se préparer au cours des 80 années qui nous séparent de la dernière guerre. Nous avons besoin des meilleurs, et rapidement. Peut-être vas-tu nous convenir, ou peut-être pas.
Peut-être vas-tu t'effondrer sous la pression, peut-être que ça va ruiner ton existence, que tu finiras par me détester pour être venu chez toi aujourd'hui. Mais si ton intégration dans la flotte ne donne à l'espèce humaine ne serait-ce qu'une chance de survivre face aux Doriforts, alors je vais te demander de le faire, de venir avec moi. Ender avait du mal à se concentrer sur le colonel Graff. Il lui semblait très loin, très petit, comme si le cadet des Wiggin avait pu le prendre avec une pince à épiler pour ensuite le laisser tomber dans sa poche. Tout abandonner derrière lui pour se rendre dans un endroit très dur, sans Valentine, sans maman, sans papa. Puis il se souvint des films consacrés aux Doriforts, que tout le monde devait voir au moins une fois par an. La dévastation de la Chine, la bataille de la ceinture, la mort, la souffrance, la terreur. Et Maser Rakam, dont les brillantes manœuvres étaient venues à bout d'une flotte ennemie d'une taille et d'une puissance de feu double de la sienne, en utilisant des petits vaisseaux qui semblaient tellement fragiles en comparaison. Comme des enfants se battant contre des adultes. Et au bout, la victoire.
« J'ai peur, » dit Ender d'un ton égal. « Mais je vais partir avec vous. »«
Redis-le-moi, » fit Graff.
« C'est pour ça que je suis né, non ? Ma vie n'a aucun sens si je n'y vais pas. »«
Ce n'est pas suffisant, » insista Graff.
« Je ne veux pas partir, » reprit Ender. « Mais je le ferai quand même. »
Graff hocha la tête. « Tu peux changer d'avis, jusqu'à ce que tu sois monté dans ma voiture. Après ça, tu te conformeras au bon vouloir de la flotte internationale. Tu comprends ?»
Ender acquiesça de la tête.
« Très bien. Allons le leur dire. » Mère pleura. Père faillit l'étouffer dans ses bras. Peter lui serra la main et dit « Tu ne connais pas ta chance, espèce de petit crétin de bouffeur de merde. » Valentine l'embrassa, semant des larmes sur ses joues. Il n'y avait rien à emballer, pas d'affaires à prendre. L'école te fournira tout ce dont tu as besoin, des uniformes jusqu'aux fournitures scolaires. Pour ce qui est des jouets, il n'y a qu'un seul jeu là-bas.
Au revoir, dit Ender à sa famille.
Il prit la main du colonel Graff et sortit avec lui.
Tu dédoris fort pour moi !» hurla Peter.
« Je t'aime, Andrew !»
lui cria Mère.
« Nous t'écrirons !» fit Père.
Et alors qu'il montait dans la voiture qui attendait silencieusement dans le couloir, il entendit le cri angoissé de Valentine.
« Reviens-moi ! Je t'aimerai à jamais !»